Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Une nouvelle femme marocaine, une vraie femme marocaine, avec ses interrogations, ses remises en question, son évolution. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Riznal Idrissi, bonjour.
Bonjour, Yalla Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui.
Je vais très très bien.
Alhamdoulillah. Je ne peux qu'être heureuse. Alhamdoulillah, je vais très bien. C'est contagieux.
C'est ma devise, écoute.
Alhamdoulillah,
rien ne marche. Alhamdoulillah, voilà.
Alhamdoulillah, exactement. Est-ce que tu as toujours été comme ça?
Un petit peu, oui.
Oui, ça a toujours été ta nature.
Ces derniers temps, encore plus.
Alèche.
Ces derniers temps, encore plus. Pourquoi ces derniers temps?
Pourquoi, oui. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est quoi,
oui.
Justement, qu'est-ce qui a fait que quand tu dis c'est...
Beaucoup de choses.
Ouais.
Beaucoup de choses. C'est l'âge, c'est l'expérience. Peut-être que l'après 40 ans, on devient un petit peu plus logique.
Mm.
On apprend à mieux profiter de ce qui nous entoure, à mieux profiter de ce que nous sommes, à connaître notre valeur. Parce qu'avant, quand on est un peu ado, enfant, on veut... Et puis, on ne se concentre pas sur ce que l'on a déjà.
Mm.
Mais à 40 ans, tu te dis, ah ben, tiens, je suis en bonne santé, mais c'est extraordinaire, c'est pas donné à tout le monde. J'ai un boulot que j'aime, une passion, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont tristes de partir au travail. Moi, je suis heureuse de partir au travail. C'est extraordinaire, ça, c'est un trésor. Je suis en bonne santé, j'ai une, ma petite famille, mon mari, mes enfants, ma famille, la grande, mes beaux-parents. Rien du tout,
ouais.
Justement. Allahumma lak alhamd. D'où le Allahumma lak alhamd.
Exactement.
J'ai mes organes qui fonctionnent tout seuls, alhamdoulillah, mais c'est parfait. Allahumma lak alhamd, Allahumma adim la ni'ma.
Ouais. Alors quand tu dis j'ai un boulot que j'aime, je suis heureuse d'aller au boulot tous les jours, tu fais quoi dans la ville à la Rizlane?
Je suis professeure de français.
Ok. Ouais. Alors, on parle aujourd'hui de la crise, justement, de l'enseignement, etc.,
oui.
des relations un peu compliquées entre les élèves et les enseignants. Toi qui vis dedans, toi qui es une femme d'aujourd'hui,
oui.
qui vis au sein de ce système d'enseignement, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Alors, écoute, ce qui se dit, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de changements dernièrement dans le métier. D'accord. Il y a eu beaucoup de changements dans la société de manière générale, donc l'enseignement n'en échappe pas. Donc, personnellement, j'ai ma stratégie qui marche. Déjà, comme je dis, donc je fais un boulot que j'ai choisi, un boulot que j'aime. Je me réveille heureuse d'aller au travail. Je ne dis pas que je n'aime pas les vacances. Les vacances. Mais tout de même, j'aime beaucoup aller au travail, j'aime beaucoup entrer en classe, être en contact avec mes élèves. C'est vrai que ce n'est plus comme avant. Les élèves ne sont plus comme avant. Les professeurs aussi ne sont plus comme avant. Mais il faut faire avec.
Alors, qu'est-ce qui a changé chez les élèves? Qu'est-ce qui a changé chez les enseignants aussi?
Alors, beaucoup d'enseignants, je pense, je ne généralise jamais, mais beaucoup d'enseignants ne font plus le métier d'enseignement par amour et par passion. Ce n'est plus une vocation. Beaucoup de personnes deviennent professeurs juste parce qu'ils sont obligés ou bien parce qu'ils n'ont pas trouvé une autre alternative. Et là, c'est très grave. Parce que c'est un métier dans lequel on est toujours en contact avec l'autre, on échange avec l'autre. On n'est pas dans un bureau avec un ordinateur, avec des dossiers, tout seul. Donc, il n'y a pas de problème si on ne communique pas avec les autres. Enseigner, c'est toujours être en communication avec autrui.
Absolument.
C'est transmettre et recevoir. On apprend beaucoup de nos élèves. On apprend beaucoup de nos élèves.
Ça t'arrive parfois justement d'avoir cette conversation sincère avec tes consoeurs et confrères?
Parfois, oui.
Uh-huh.
Parfois. Surtout de la même génération.
C'est ça. Mais les autres, non.
Pas les autres, non, parce que ces derniers temps, je suis, comment dire, tutrice. Donc, je reçois des professeurs pour que je puisse les former à devenir professeur. Et quand je leur pose la question, pourquoi tu as choisi ce métier-là? Il y en a qui disent que c'est un rêve de petite fille, il y en a qui disent que parce que leur famille est une famille d'enseignants, donc ils ont fait ça parce que c'est comme ça, c'est héréditaire. Et puis d'autres qui me disent, comme ça, madame, on n'a pas trouvé autre chose.
Ouais.
Ah, alors là, je leur dis, bah, écoutez, si vous n'avez pas trouvé quelque chose, allez chercher ailleurs. Mmh. Parce que vous allez voir chaque jour, au moins 100-150 élèves par jour. Si vous n'aimez pas ce travail-là, vous allez rester dans votre collège ou bien votre établissement pendant 4 heures à faire quelque chose que vous n'aimez pas. Les élèves, automatiquement, ils vont le sentir.
C'est horrible, en fait, d'être pris au piège.
C'est un piège qui est vraiment très douloureux. Très douloureux. Et déjà, comme je le dis, donc, enseigner, c'est échanger. Déjà, quand tu n'aimes pas un boulot, que tu es enfermé dans ta petite boîte, ça va, ça ne concerne que toi. Mais là, quand tu dois échanger avec les autres, leur donner un savoir nouveau, ça, c'est un petit peu compliqué.
Oui.
Et c'est grave pour les générations à venir.
Oui. Lala Rizlane, oui. J'avais posté un petit message, une story sur mon compte Instagram et tu avais répondu. Oui. J'avais écrit un truc par rapport à toutes les femmes de plus de 40 ans, comment justement croire en soi, continuer à rêver, ne laisser personne vous dire qu'après 40 ans, les rêves s'arrêtent. Et tu as dit effectivement, depuis mes 40 ans, je me sens plus à l'aise dans ma peau et mieux armée pour affronter ce qui va venir. Et tu as écrit une chose qui est très, très belle et tu as dit, et le plus important, je me sens plus féminine et plus jolie. Qu'est-ce qui a changé à 40 ans, Lala Rizlane ?
Pardon ?
Qu'est-ce qui a changé à 40 ans ?
Beaucoup. Alors, ma génération a grandi dans une idée que fallait cacher son âge. Faut pas dire son âge. On ne pose jamais à une dame une question, quel âge a-t-elle ? Donc, c'est mal vu.
Chôme.
Je me suis dit, voilà, chôme. On ne demande pas à une femme son âge. C'est pas élégant. Et puis là, quand j'avais 39 ans, je me suis dit, bon, allez, j'appréhendais, allez, je vais voir ce qui va se passer à 40 ans. Alors, on va voir ce qui va se passer, on va crever l'abcès. Alors, le jour de mes 40 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme ça. Peut-être que j'étais psychologiquement un petit peu prête. Je me suis sentie bien dans ma peau. Je me suis dit, ben, il n'y a rien. Hier, j'avais 39 ans, maintenant j'ai 40 ans, ben, il n'y a rien qui se passe. Après 40 ans, j'ai appris à m'accepter tel que j'étais. J'ai appris à aimer ce que je suis. Je parle morphologiquement parlant et même spirituellement, même psychologiquement. J'ai appris à accepter un corps qui n'est forcément pas parfait parce que personne n'est parfait. Un corps parfait n'existe pas. Un corps parfait n'existe pas. Mmh. Une personne parfaite n'existe pas. Donc j'ai mes petits défauts comme tout le monde et c'est ce qui fait mon charme. C'est ce qui me rend unique.
Absolument.
J'ai appris à mettre un peu plus de lumière sur mes atouts, que ça soit sur intellectuellement, socialement, physiquement. Et puis voilà.
Quand tu dis j'ai appris,
le mot magique.
Pardon, mais quand tu dis j'ai appris, c'est qu'il y a eu un processus.
Oui.
Voilà.
Parce que pendant l'adolescence, quand même, on a des petits défauts, on a envie de cacher ceci, on a envie de cacher cela. On cherche toujours un petit truc qui ne marche pas, des cernes par-ci, des fourches par-là, des quelques kilos à perdre. Parfois, ce sont des kilos imaginaires. Si on a, par exemple, on fait 1m63 et on a 60 à 59 kilos, bah, c'est bien. Mais nous, on cherche la taille 38, 36. On veut toujours acheter un jean, une taille plus petite et s'enfoncer dedans. Ben non, je fais du 40, alors je porte du 40 et je suis bien, je suis allée. J'ai autre chose qui pourrait prendre mon énergie. Au lieu de me casser la tête à faire du 38, ben je pourrais prendre ce temps-là, le passer avec mes enfants, jouer à la plage, faire un petit gâteau ensemble, s'amuser, rire, faire des exercices.
Mais comment tu as fait ?
Au lieu de perdre son temps bêtement.
Alors comment tu as fait pour arriver à ça ?
Je ne sais pas.
Tu sais pas.
C'est peut-être dû à l'enfance, parce que j'écoutais maman à l'asthma qui disait quand je suis née, quand je commençais à dire, hein, j'ai passé, elle me dit écoute, Alhamdoulilah, d'autres personnes n'ont pas cette chance. D'autres personnes n'ont pas cette chance. Quand on dit maman, on a des invités, il y a trop de vaisselle, elle me dit écoute, maintenant, si j'ai intégré les braques, c'est les matières, quand je les droits, les hilbèbes. Donc, ma mère était toujours dans cet esprit-là. Il faut toujours remercier le bon Dieu. On vit mieux que beaucoup de personnes. Donc, elle, peut-être que c'est avec l'âge, on commence à penser comme sa maman. Peut-être qu'on commence à comprendre mieux ce qu'elle disait à l'époque.
Oui, on comprend mieux.
Voilà,
on comprend mieux.
On comprend mieux.
C'est ça.
Avec l'âge, avec les expériences, avec les déceptions qu'on a eues quand même. Donc, on essaie un peu de faire la part des choses.
Oui. Alors, justement, tu dis avec les déceptions. Tu en as eu beaucoup, Lala Rizlane ?
Oui, mon lot quand même de déceptions.
Ouais.
J'ai eu mon lot. C'est ce qui m'a forgée d'ailleurs.
Ouais.
Voilà. Voilà, c'est ce qui m'a forgée. On ne tombe plus. On essaie. On essaie de ne pas tomber dans le même piège. On essaie de ne pas. On détecte un petit peu les personnes, les fausses personnes. Et si c'est difficile, mais on essaie de les détecter.
Mm.
Et puis je me dis, écoute, je n'ai plus envie de me casser la tête. Je connais des gens que j'aime bien. C'est réciproque. Donc c'est largement suffisant. Et puis si jamais un truc qui cloche, qui ne va pas, donc la personne, je ne vais pas me casser la tête avec. Hein. J'ai autre chose à faire. Je la classe, je la mets dans son petit coin, voilà. Et puis, allez, hop, je focalise avec les personnes que j'aime, qui m'aiment, avec lesquelles je me sens bien.
Absolument, absolument.
Oui. Mais la vie est courte, on va pas...
La vie est courte, exactement.
Voilà, la vie est courte. Mais quand... Je ne vais pas me casser la tête avec des personnes toxiques.
Ouais,
ah mais... Non, pas du tout.
Mais quand on change, les autres ont l'impression qu'on est égoïste, en fait.
Ça, c'est leur problème. Ils pensent ce qu'ils veulent. Tant que je ne suis plus en relation avec ces personnes-là, elles peuvent penser que je suis un monstre. Ça, c'est leur problème. Mais l'essentiel, c'est ce que moi, je pense de moi. Et ce que les personnes qui m'aiment pensent de moi. L'opinion des autres, bah, ça reste l'opinion des autres.
Mm.
Ça ne regarde pas, c'est derrière. Je ne regarde pas le rétroviseur. Je regarde devant.
Absolument.
Pour pas rentrer dans un arbre.
Ouais, ouais. Mais tu le dis avec beaucoup de légèreté, en fait. Et la femme marocaine en général...
Oui.
ديما كتبقى عندها هذاك الخوف ديال نعيو ما نتبدلو كتبقى داك المراعاه للاخر
سي فري ولكن هذا الاخر شكون هو هذا الاخر بالنسبه لي اللي كي امبورت هذاك الاخر اللي كيهز لي ليست انا الهم انا غادي نهز الهم وغادي تهز غادي نبغي النظره ديالو ديال النظره ديالو عليا ما تبدلش هذوك الناس اللي انا كنبغي لان عندي عزاز
Oui.
Ou avec l'âge après 40 ans, avec le cercle, il y a le cercle qui sera radio qui est diac. Qui sera radio qui est diac. Avant, on avait beaucoup d'amis qui connaissent les sahabes bzaf, les ma'arif bzaf. Et puis, à un moment donné, ça commence à rétrécir. Il y a tout le monde qui a fait le machin de Dieu, il y a tout le monde qui a fait l'état d'âme de Dieu, ça a fait le tukir, le khidma qui va faire le dhaoui. Mais il y a des gens qui ont fait bzaf, qui sont la famille. Ou les amis qui deviennent la famille.
Mm.
Parce que la famille, ce n'est pas seulement les liens de sang.
Absolument.
Là, j'ai des relations d'amitié avec des amis, imagine, depuis la crèche.
Mm.
C'est rare de trouver des gens avec lesquels on reste toujours connecté depuis plus de 40 ans.
Absolument.
Et c'est extraordinaire. J'ai des amis du lycée, de la fac, alhamdoulilah, avec lesquels, c'est vrai, on ne parle pas chaque jour au téléphone, mais à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on ne s'était pas vu depuis 24 heures. Et je sens qu'elles m'aiment. Et elles savent que je les aime et que je les apprécie, telles qu'elles sont. Et elles m'acceptent telles que je suis. Alhamdoulilah, des ni'mas.
Absolument. Alors, dernièrement, une femme d'aujourd'hui que j'ai reçue, Nadette Ouzani, t'a mentionné dans sa story par rapport à l'accompagnement que tu lui as donné. Voilà. C'est quoi ta relation, Rizlane, avec Nada?
Alors, avec Nada, notre relation, elle est un petit peu magique. Alors, Nada, je l'ai vue la première fois, c'était lors du mariage d'une amie qui nous a mis en contact, Rizlane.
Ok.
Alors, c'était le jour de son mariage, c'était ma meilleure amie, en 2004.
Une autre Rizlane, bien sûr, pas toi.
Une autre Rizlane, voilà, une femme magique, une runner. Et je lui ai dit, c'est qui la dame là-bas avec... Alors, Nada portait du bleu ciel, je me rappelle très bien. Elle avait un magnifique maquillage, elle était belle, elle était vraiment très belle. Elle est toujours belle. Elle portait, je ne sais pas, soit c'était le carton qui était bleu ciel ou bien le foulard. Je lui ai dit, c'est qui la dame là-bas au bleu ciel? Elle m'a dit, écoute, c'est ma belle-sœur. Ah, je lui ai dit, ok, d'accord. Et puis, on s'est souri mutuellement, Nada et moi. Puis, on s'est jamais revus depuis 20 ans.
Mm.
Et lorsque Nada a commencé sa page, qui parlait de l'autisme, Narizin qui m'a contactée, elle m'a dit, écoute, toi, tu as une page sur Instagram. Nada, elle va faire elle va commencer à parler un petit peu de l'autisme, elle va faire de la sensibilisation. Est-ce que tu pourrais partager ça sur ta story? Je lui ai dit, mais avec plaisir. Parce que déjà, le concept de ma page, quand j'ai ouvert ma page sur Instagram, c'était de rester en contact avec ma famille pendant la Covid.
Mm.
Au lieu d'appeler tous mes cousins et mes tantes, donc je faisais une story où j'embrassais tout le monde. Et puis voilà. Et à chaque fois que je trouve une femme même si je ne la connais absolument pas, qui commence un petit projet, qui n'a pas beaucoup de followers, je partage son projet ou bien sa page sur ma story, comme ça, pour la faire connaître. Même si je ne la connais pas. Si je donne un coup de pouce à quelqu'un, ben c'est normal que le bon Dieu va me le rendre. C'est automatique.
Absolument.
Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc avec Nada, je partageais au fur et à mesure qu'elle partageait quelque chose, je le partageais sur ma story pour la faire connaître à mon petit réseau. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a démarré.
Ouais, ouais. Et la relation est restée entre vous. Voilà, c'est devenu une relation amicale.
Extraordinaire.
Super.
Extraordinaire. Et j'embrasse Nada. J'espère qu'elle est en train de m'écouter là. Et Rizlaine aussi, qui nous a mis en contact.
Voilà. Lella Rizlaine, est-ce que tu t'attendais à devenir la femme que tu es devenue aujourd'hui?
Je te mentirais si je te disais oui. Écoute, je vais te dire quelque chose. Quand j'ai grandi, maman Lachma était une femme qui était aimée de tous. C'est vrai, tout le monde va dire la même chose. C'était une excellente cuisinière, c'était une excellente enseignante, d'ailleurs. C'était une excellente voisine, donc elle excellait vraiment dans tout ce qu'elle faisait. Et je voyais autour de moi les gens qui la regardaient avec une admiration. Oh, la Lazor, oh, ben ça c'est la Lazor qui a fait ça. Oui, ben c'est normal, c'est elle qui a fait ça. Donc ils étaient toujours, elle avait ce... Les gens la regardaient comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Et quand on me lançait une petite phrase, ah ben, quand tu parles, on dirait ta mère. Je me disais, yes, je vais lui ressembler, je vais finir par ressembler à ma mère. Waouh, ça serait bien que je ressemble à ma mère. Et moi, je me disais, mais je ne peux pas faire ce qu'elle fait, parce que c'est beaucoup pour moi. Sa patience, elle souriait à tout le monde, elle essayait d'être gentille avec tout le monde, même les personnes qui étaient méchantes. Je lui dis, mais maman, pourquoi tu fais ça avec elle? Elle me dit, mais elle est comme ça, moi, je ne suis pas comme elle. Si elle est méchante, je ne vais pas lui rendre sa méchanceté par de la méchanceté. Elle est comme ça, une skin. Hein. Elle est comme ça, une skin. Hein. Donc, quelqu'un de méchant, c'est un skin. Et elle continue sa vie. Même lorsqu'elle est morte, les gens ils disaient, mais elle était gentille avec parfaitement tout le monde. Elle était incapable de rendre quelqu'un malheureux, même à ses dépens. Du coup, je me suis dit, bah, écoute, avec là, je dois être un petit peu comme maman, mais à ma manière. Et je dois faire en sorte que les personnes qui m'entourent puissent apprécier ma compagnie, puissent apprécier le fait que je sois là, que je sois, comme tu as dit, un petit peu légère. Et c'était un peu ça, un peu ma mission. Donc, à chaque fois ou bien à chaque lieu où je passe, je laisse un petit... une fragrance agréable. Je laisse un petit souvenir agréable, léger, sur ma présence.
Ouais.
Et comme ça, lorsque je mourrai, je ne sais pas quand est-ce que je partirai, je laisserai un excellent souvenir pour mes enfants.
C'est ça. Alors, tu es maman de 2 enfants.
Oui.
Est-ce que tu penses que ta fille aussi te voit de la même manière que tu voyais ta maman?
Déjà, Jude, elle a 8 ans. Mais écoute, je l'espère. Je l'espère. Elle me lance tout le temps des « je t'aime, je veux faire comme toi ». Ouf, quand elle me dit « je veux faire comme toi », c'est un fardeau quand même. C'est un fardeau,
Allez.
Donc il faut transmettre. Il faut transmettre quelque chose de bien. Il faut transmettre ce que j'ai reçu de ma maman et des choses qui pourraient l'armer aussi à affronter la société. C'est vrai qu'elle aura des petits soucis, qu'elle va pleurer, qu'elle sera blessée, c'est normal. Elle pourra acquérir sa propre immunité contre... qui va venir après. Mais j'essaie, avec les moyens que j'ai, de les couver d'amour, le maximum. C'est vrai que je crie, allez, je l'aide de voir, il faut ranger la chambre, nanana, c'est un petit peu méchante de temps en temps. Mais je fais en sorte que, lorsqu'ils partent à l'école, que notre dernier contact, mais vraiment le dernier qui part à l'école ou bien qu'ils veulent dormir, un mot doux ou un je t'aime. Même si j'ai crié avant,
ben oui, la Bouddha.
Même si j'ai été cruelle là, mais vraiment, on a les cheveux en l'air.
Tu le reconnais. Non, mais j'adore, mais tu le reconnais.
Mais je fais en sorte qu'il y a cette petite gomme qui efface ça avant de dormir et avant l'école, parce que je sais qu'on peut partir à n'importe quel moment.
Ouais, ouais.
Je ne sais pas qui va partir, mais bon, il faut toujours laisser un mot gentil. Comme ça, on n'a pas de regrets après.
Absolument. Être enseignante et maman, est-ce qu'on a beaucoup d'attentes? Est-ce qu'on a besoin? Est-ce que tu es très regardante sur les notes et le rendement scolaire? Ou bien est-ce que c'est plutôt l'effort qui compte?
L'effort. Voilà, je ne réfléchis pas, je dis l'effort. Pourquoi ? Parce que quand tu focalises sur la note, l'enfant ou bien l'élève de manière générale, il va tout faire pour avoir une excellente note, peu importe la manière. Il peut même voir sur la copie de son ami et avoir d'excellentes notes pendant des années. Mais lorsqu'il aura son bac et qu'il sera obligé d'aller faire des entretiens ou bien de passer des concours, alors là, il aura besoin du savoir qu'il a gardé dans sa tête et non pas de la note avec laquelle il est arrivé. Donc, c'est ce que j'essaie de sensibiliser aussi les parents sur ma page. Ne focalisez pas sur les notes de vos enfants. Focalisez sur l'effort qu'il fait et sur les apprentissages qu'il a acquis.
Mais pour les parents, en fait, note égale effort.
Intelligence.
Et effort.
Non, pas du tout. Pas du tout. Un élève peut avoir facilement un 18 de n'importe quelle manière. Et on sait, tout le monde sait que ça arrive. D'accord ? Et c'est pour ça que beaucoup d'élèves ont de très bonnes notes et n'arrivent pas à joindre des universités ou bien des écoles prestigieuses ou bien à avoir un avenir aussi brillant qu'ils souhaitaient.
Absolument.
Alors qu'on peut trouver des élèves qui ont eu, par exemple, un bac avec une note qui est assez moyenne, mais lorsqu'ils étaient amenés à passer un entretien ou bien à passer un concours, ils ont pu gérer parce qu'ils ont des savoirs, parce qu'ils ont un savoir-faire aussi. Les savoir-faire ne comptent pas.
Absolument.
On peut trouver un élève qui, tabarakallah, il peut connaître tous les philosophes, tous les mathématiciens, toutes les formules mathématiques, il est excellent, brillant, mais lorsqu'il est devant un jury, il perd ses moyens. Il perd ses moyens, parce que là, la tête, elle est bien pleine, mais est-ce qu'elle est bien faite ? Est-ce qu'il est amené à gérer le stress d'un entretien ou bien d'un concours ?
C'est ça. Lalla Rizal Idrissi, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi.
Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médias et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médias Podcast et les plateformes de podcast habituelles.